MD 105.5 FM.
Et ça y est, à la seconde près, il est 13h30 à Paris. Dans 30 minutes, le retour de l'actualité avec le grand journal international. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour.
On commencera cette édition en Chine.
Et oui, la Chine qui vient d'annoncer des droits de douane de 34% et qui va saisir l'OMC. C'est ce que nous dira Cléa Bordhurst de Pékin, une décision qui fait plonger les bourses européennes. On poursuivra par le Proche-Orient. Nous retrouverons Michel Paul de Jérusalem qui reviendra sur la nouvelle offensive terrestre de ce matin à Gazaville. Les opérations s'intensifient et le bilan annoncé par la défense civile palestinienne fait état de 30 morts. Dans le même temps, l'armée israélienne intensifie ses frappes en Syrie et au Liban, tuant deux membres de la branche armée du Hamas dans un raid aérien contre un bâtiment à Saïda, ville du sud du Liban.
Dans votre journal, Olivier, aussi aux États-Unis, le patron et le numéro 2 de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, limogé par Donald Trump. Une épuration de plus dans les services de renseignements américains, bien chamboulés depuis deux mois, nous expliquera Juliette Chénion du service international.
Et puis des scènes de liesse et de joie à Séoul, nous racontera Camille Ruiz après l'annonce officielle de la destitution du président sud-coréen par la Cour constitutionnelle. Enfin, en France, la semaine olympique et paralympique se termine aujourd'hui. Plus de 500 000 jeunes ont pu participer à des événements sportifs. Gros plan dans le prochain journal avec Solène Ravenel sur le nouveau complexe sportif Prisme en Seine-Saint-Denis. L'occasion de découvrir le sport adapté.
A tout à l'heure, Olivier Sherman.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Elle tient tête à Donald Trump et ses pulsions impérialistes et semble prête à poursuivre son bras de fer avec le président américain sur le Groenland. Mette Frederiksen est l'européenne de la semaine sur RFI. Bonjour Julien Chavannes.
Bonjour.
La première ministre du Danemark résiste face au projet de la Maison Blanche de faire main basse sur le territoire contrôlé par Copenhague.
Et elle est depuis mercredi au Groenland, invitée officiellement par le nouveau premier ministre groenlandais. Visite symbolique et politique forte. Mette Frederiksen avait un message clair à faire passer.
Les États-Unis ne doivent pas s'emparer du Groenland. Le Groenland appartient aux Groenlandais.
Est-ce que sa fermeté face à Donald Trump est saluée dans le pays ?
Clairement, aujourd'hui, sa résistance lui donne un coup de boost dans les sondages. Elisabeth Svend est éditorialiste politique au grand journal danois Politiken.
Elle est bien plus populaire auprès des électeurs danois qu'elle ne l'était auparavant. Son gouvernement a été très impopulaire car les gens ne comprenaient pas pourquoi les libéraux de droite et la gauche pouvaient collaborer. Ces partis, habituellement éloignés les uns des autres, sont généralement des adversaires politiques.
Une fermeté que les Danois ont déjà vue. Pendant la crise du Covid, elle avait marqué les esprits. Mette Frederiksen n'avait pas hésité à ordonner l'abattage de tous les visons du pays avant de s'excuser en larmes devant les caméras. Et ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la dame de fer scandinave. Dès son arrivée au pouvoir, elle avait mené une politique très dure envers les migrants.
Pourtant, la dame de fer avant, on l'appelait Mette la Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Alors, ses passages au ministère de l'Emploi et de la Justice l'ont changé. Mais ce virage idéologique est aussi stratégique. Mette Frederiksen a voulu contrer l'essor des nationalistes du Parti du Peuple danois, comme nous l'explique Niels Dahl. Il analyse la politique danoise au quotidien Jyllands-Posten.
Si les sociaux-démocrates voulaient conserver leur position de premier parti au Danemark, elle a décidé qu'il fallait combler l'écart entre eux. Donc sur le plan politique, elle a fortement orienté son parti vers la droite, avec une politique très stricte en matière d'immigration, et en même temps, elle a orienté sa politique économique un peu plus à gauche, ce qui a été un facteur clé de sa victoire électorale en 2019.
Mette Frederiksen s'est engagée en politique très jeune. À 15 ans à peine, elle rejoint le Parti social-démocrate. L'ascension est express. À 24 ans, elle est élue au Parlement et à 41 ans, elle devient la plus jeune première ministre du pays avec un style parfois autoritaire comme nous le raconte le professeur de sciences politiques, Rune Stubager.
Elle aime obtenir ce qu'elle veut et elle n'a pas peur de faire pression, surtout au sein de son parti. Elle veut que les députés suivent la ligne du parti et qu'ils s'y tiennent. On l'accuse de concentrer trop de pouvoir autour d'elle, tant au sein du parti qu'au sein du gouvernement.
Mais pour le journaliste Niels Dehl, la force de Mette Frederiksen, c'est justement d'aimer le pouvoir.
Elle aime l'avoir et elle aime l'exercer. Elle n'a jamais hésité à user de son pouvoir si elle en avait l'occasion pour faire ce qu'elle jugeait nécessaire. Et je pense que c'est en quelque sorte sa plus grande qualité, sa capacité à accomplir des choses, sa volonté de le faire quand elle le juge nécessaire.
Mais alors que sait-on de sa vie à côté de la politique ?
Pas grand-chose. On sait qu'elle est mère de deux enfants, remariée avec un réalisateur de cinéma, qu'elle aime cuisiner des plats traditionnels danois, qu'elle le fait savoir sur Instagram. Un événement l'a marqué récemment, en juin 2024, elle est agressée par un homme qui la frappe violemment en plein centre de Copenhague. On a aussi appris qu'elle avait acheté une ferme à la campagne où l'attend sa vie d'après la politique.
Mais à 47 ans, elle a encore du temps, hein. Cela fait plus de 5 ans qu'elle est au pouvoir. C'est quoi la suite pour Mette Frederiksen ?
Eh bien, rester au pouvoir. Les prochaines élections sont prévues en novembre et elle a des chances de remporter un troisième mandat avec peut-être une nouvelle coalition. La suite pourrait aussi l'amener à un gros poste à la tête de l'Union européenne ou bien encore à l'OTAN.
On suivra ça. Merci beaucoup, Julien Chavanne.
RFI Midi.
Direction Fiumicino, à une quarantaine de kilomètres de Rome. Dans cette ville où est situé l'aéroport international de la capitale italienne, les habitants se mobilisent contre un projet de port privé lancé par la compagnie américaine Royal Caribbean pour que les touristes puissent visiter la nécropole d'Isola Sacra. Elle souhaite pouvoir faire accoster ses navires de croisière sur la petite île de 12 kilomètres carrés seulement, entourée par le Tibre, le canal de Fiumicino et la mer Tyrrhénienne. Et forcément, les 30 000 habitants du territoire s'y oppose farouchement. Le reportage pour RFI Dan Lenir.
Des centaines d'habitants de l'Isola Sacra et d'autres quartiers de Fiumicino, aux maisons souvent bâties sans permis dans les années 60, se regroupent fréquemment près de la plage publique pour crier non au projet de port touristique de croisière. D'autant que la région de Rome a déjà un grand port de croisière à Civitavecchia. Madeleine, une Française cadre dans le secteur de la nautique et résidant à Fiumicino depuis 15 ans, soutient le collectif Tavoli del Porto qui réunit une trentaine d'associations désireuses de préserver le littoral du Latium.
Ce qui m'effraie le plus, c'est que ça va être une méga structure non adaptée au territoire de Fiumicino, où les gens viennent notamment le dimanche pour manger au restaurant de poisson. La côte de l'Isola Sacra est faite de petits kiosques et d'établissements balnéaires, et ce grand port touristique de croisière apporterait une énorme pollution de l'air, de l'eau et la pollution sonore. Ici, on a déjà un aéroport. Là, en plus, on aurait ce bruit constant des bateaux de croisière.
L'avant-dernier projet, approuvé en 2010, visait à créer un port de plaisance. En 2013, il a été stoppé par la justice suite à une enquête pour fraude visant le constructeur italien Caltagirone. En 2022, la concession du port de plaisance pour 90 ans a été rachetée au prix de 12 millions d'euros par la compagnie de croisière Royal Caribbean, qui a créé ensuite la société Fiumicino Waterfront avec le fonds d'investissement britannique Icon pour faire naître non plus un port de plaisance, mais un port touristique de croisière sur une superficie d'1 million de mètres carrés. Ce projet privé, estimé à 700 millions d'euros, a été inséré par le gouvernement en 2023 dans la liste des ouvrages essentiels pour le jubilé 2025. Mais à ce jour, il manque encore des autorisations pour entamer les chantiers. D'où la mobilisation renforcée du collectif Tavoli del Porto, surtout depuis qu'une barrière en béton a été érigée en une nuit, au mois de mars, sur une partie de la plage publique, sans que les autorités n'en communiquent les raisons. Écoutons sur cette plage de sable le porte-parole du collectif, Davide Di Bianco, spécialiste environnement.
Les fonds à l'embouchure du Tibre sont sableux, ils ne se prêtent pas à l'ancrage de grands navires. Par conséquent, 3 millions de mètres cubes de sédiments devraient être extraits, ce qui signifie dévaster l'embouchure du Tibre. Donc on a peur pour notre santé. En plus, il y a un grand problème de circulation. Nous sommes sur une île. Au cours des 15 dernières années, le nombre d'habitants a doublé, passant de 15 000 à 30 000. Quand les navires de croisière arriveront, il y aura au moins une centaine de bus en plus par jour. Nous sommes convaincus que les géants de la mer drainent un tourisme de masse qui écrasera le tourisme de proximité.
Claudio Passentino, biotechnologue qui fait partie partie du groupe Tavoli del Porto nous apporte des précisions.
Chaque navire de croisière pollue comme 8000 petites voitures arrêtées à un feu rouge. D'un côté, nous avons des structures en mauvais état, mais de l'autre, nous avons un marais salant qui représente une richesse naturelle incroyable. Si le port est bâti, ce site disparaîtra inéluctablement. Plus ce projet fou gagnera du terrain et plus ses opposants iront de l'avant.
Parmi les plus anciens opposants, on trouve Attila, un Romain de 72 ans, très costaud, au visage buriné par le soleil et le vent et aux yeux bleus bridés. Gianfranco Miconi, de son vrai nom, vit depuis plus de 20 ans sur la plage d'Isola Sacra, dans une des 7 cabanes de pêcheurs sur pilotis, les fameux carlés, qui risquent d'être détruites. Il l'a rénové comme un petit chalet en bois. Le salon rococo offre une vue sur la terrasse qui domine la mer. Il nous offre son témoignage sur cette terrasse de 90 mètres carrés.
La spiaggia est chiusa.
La plage est barrée. Avant, il y avait des enfants qui venaient jouer. Elle était remplie de gens. C'était un lieu de rencontre parce que c'est un endroit merveilleux. Mais Royal Caribbean a tout acheté. Je me suis sacrifié pour ce carlet. Je n'en sortirai que lorsque je serai mort. J'ai vécu tant de choses. La splendeur de la nature, les orages, les vents de tempête. Avec la pêche à la balance ou avec le filet carré, on pêchait de tout. Bar, dorade, marbré. Ici, divers films ont été tournés avec Pasolini, Charlize Theron, Andy Garcia, Uma Thurman. Un cadre comme celui-ci, on ne le retrouve plus. Donc on ne peut pas me jeter dehors comme ça. Je monterai sur le toit et je réaliserai la promesse que je me suis faite.
Non loin du carlet d'Attila, un autre est occupé par l'association No Porto et c'est ici que se rend souvent Paolina, italienne francophone, qui travaille pour une compagnie aérienne et vit sur l'Isola Sacra depuis 2 ans.
J'ai 2 enfants de 12 et 14 ans. On a connu cette plage comme une plage libre. On a envie de vivre un quotidien comme celui qu'on a choisi, où on peut avoir une qualité de vie. Quand je suis venue ici, le lendemain du montage du mur, les enfants, ils avaient les larmes aux yeux. Ça fait vraiment mal au cœur.
Si le projet portuaire prend réellement forme, l'Italie aura son premier port privé d'accueil pour les navires de croisière, ce qui constituera un dangereux précédent pour toute la péninsule. Anne Lenir, Isola Sacra, Fiumicino, RFI.
RFI Midi.
La Turquie va-t-elle continuer de se rebeller dans le pays? L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan, a provoqué une vague de contestations, des manifestations monstres réprimées par les autorités. Près de 1900 personnes interpellées, dont des étudiants et des journalistes, y compris étrangers. Bonjour, Barçın Yunanç.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante en Turquie. Première question, plus de 2 semaines après son arrestation, l'arrestation du maire d'Istanbul, est-ce qu'on a des nouvelles de lui ?
Oui, il envoie ses messages par ceux qui le visitent, surtout les parlementaires, ses avocats, etc. Et ils nous disent qu'il est de bonne humeur, qu'il n'est pas démoralisé du tout, il a du grand moral. Et il envoie plutôt des messages pour encourager ceux qui le soutiennent. Et en général, ce sont des messages pour un activisme pacifique.
Alors, après les grandes manifestations en soutien à Ekrem İmamoğlu, le CHP, le Parti républicain du peuple, parti d'opposition, a appelé hier à une journée sans achat. Est-ce qu'elle a été suivie dans les restaurants, les stations-service, les supermarchés ?
En général, ça a été suivi. On pourrait faire des observations, mais selon les différents quartiers. Mais en tout cas, le gouvernement a pris peine à montrer que, en fait, ça a pas marché du tout. Pour vous donner un exemple,
il s'est mis en scène avec un caddie, c'est ça ?
Pardon ?
Le gouvernement s'est mis en scène dans un supermarché avec un caddie rempli ?
Ben justement, et pour un autre exemple, par exemple, le ministre de Commerce, hier, au lieu de parler du tarif de Trump, il a plutôt préféré de parler et de faire le tour de télévision pour montrer que justement le boycott n'avait pas marché, etc. Donc, on voit bien que le gouvernement, en tout cas, a été assez paniqué par ces appels-là.
Le patron du CHP appelle aussi depuis plusieurs jours à boycotter des dizaines d'entreprises et de groupes turcs réputés proches du pouvoir. Là aussi, le boycott semble suivi. On sait par exemple que le groupe de rock britannique Muse a reporté son concert prévu à Istanbul parce que justement, l'organisateur de l'événement était accusé de soutenir le gouvernement.
Ben justement, il faut un peu attendre pour quelques jours. Bon, il y a une partie justement de la société, je dirais pas toute la société, parce que le AKP a son base qui le soutient aussi, mais il y a une importante partie de la société qui voudrait être mobilisée justement de suivre quelques boycotts, etc., etc. Il y a des entreprises, il y a des listes qui viennent, etc. Mais pour voir le vrai résultat, il faut quand même attendre pour quelques jours encore.
Bartin Yunanst, il y a donc un bras de fer qui est engagé entre la rue et le pouvoir. Qui va gagner, à votre avis?
Ça dépend de ce que vous comprenez de gagner. Si on prend de gagner, de dire que bon, voilà, le gouvernement, est-ce qu'elle va démissionner, etc. Non, ça va pas se faire comme ça. Mais je pense que c'est une quand même grande victoire du fait qu'il y a eu des milliers de gens, probablement des millions qui sont pris les rues, malgré l'état d'oppression, malgré le fait qu'ils risquaient d'être mis en prison. Ça nous montre que au moins la démocratie en Turquie n'est pas totalement morte et que la Turquie n'est pas une autocratie totale pour le moment.
Dernière question, très rapidement. La répression des manifestants a suscité de très nombreuses réactions à l'international. La commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, elle, a annoncé annuler sa participation à un forum diplomatique en Turquie. Cela fait des années qu'Ankara est candidate à l'Union européenne. Est-ce que l'arrestation du maire d'Istanbul, les manifestations, les interpellations ne sont pas un frein à cette adhésion?
On n'a pas besoin du frein, à vous dire la vérité, parce que les relations entre l'Union européenne et la Turquie étaient déjà en commun. Mais le fait qu'il y a eu des protestations en Turquie nous montre qu'il y a quand même un potentiel de démocratie, que bien qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui voudraient penser que voilà, la Turquie c'est un pays musulman de Moyen-Orient, la démocratie ne peut pas fleurir là-bas, ça nous démontre que ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être un jour la Turquie ne serait pas membre de l'Union européenne, mais elle a sa place dans la famille européenne, et ces démonstrations nous montrent ça
votre argumentation. Avis. Merci beaucoup, Bartin Yunanst. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en Turquie. Merci d'avoir répondu ce midi en direct aux questions de RFI.
RFI Midi, Alban Le Prince.
Faisons à présent un tour des titres de la presse européenne et on commence en Belgique avec le journal Le Soir qui nous raconte la rencontre entre Bart De Wever, le nouveau Premier ministre, et Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine. C'était ce matin à Bruxelles et le chef du gouvernement belge avait apparemment beaucoup de choses à dire. Une des choses est que l'administration Trump ne se construit vraiment pas une bonne image en Europe, a-t-il déclaré juste avant cet entretien dans l'émission Villa Politica. Selon le quotidien, la question de la défense devait aussi être abordée puisque l'augmentation à court terme des dépenses à 3% du PIB n'était, selon Bart De Wever, pas tenable. Le Kyiv Independent propose, lui, sur son site internet, une grande enquête photo. Chaque découverte est une clé. La mission de récupération des soldats ukrainiens tombés au combat. C'est le titre de ce grand article publié hier soir pour rendre hommage aux 46 000 militaires tués et dont les corps restent bien souvent sur le champ de bataille, dans les tranchées, sur les champs de mines. Des missions sont organisées pour les récupérer, mission qu'a suivi le photographe Vyacheslav Ratinsky dans les oblasts de Kharkiv et Donetsk. Et son travail est donc à retrouver sur le site du Kyiv Independent. Et puis en terminant en Espagne, le royaume qui vient de lancer une application d'identification numérique. Plus besoin d'avoir sa carte d'identité sur soi pour circuler. Gros succès selon El País puisqu'elle a été téléchargée plus de 400 000 fois en seulement 24 heures.
RFI Midi. Un monde de tech.
troisième et dernier jour du Forum européen des droits numériques à Bordeaux, en France. Une trentaine de villes européennes y participent. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Alban.
C'est une tendance que l'on constate depuis plusieurs années avec la prolifération de la désinformation sur les réseaux sociaux, l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour certains, c'est trop. De plus en plus d'Européens choisissent à contre-courant de décrocher du numérique. On les appelle les abandonnistes. Et ça, Dominique, ça inquiète le réseau international Eurocities qui travaille depuis plusieurs années pour inscrire des droits numériques, éthiques, inclusifs et fondamentaux à l'agenda mondial.
Oui, à titre d'exemple, environ un quart des internautes en France se retrouvent aujourd'hui assez démunis face à la dématérialisation accélérée des services en ligne, qu'il s'agisse d'organismes publics ou privés. Même constat du côté de l'usage des programmes IA, dont l'utilité au quotidien pour beaucoup d'entre eux reste encore à démontrer. C'est la raison pour laquelle les participants du Forum européen des droits du numérique se déroule actuellement à Bordeaux a fait de ces exclusions numériques sa priorité. Le colloque initié par le réseau international Eurocities, qui compte déjà 210 métropoles, réunit les représentants de 34 villes et les délégués des instances européennes pour organiser au mieux cette défense des droits numériques des citoyens de l'UE.
Dominique, ce forum entre décideurs locaux et politiques européens, il est organisé en pleine guerre commerciale. Après les annonces mercredi, des nouveaux droits de douane par Donald Trump.
Effectivement, et les produits manufacturés et de l'agroalimentaire en Europe sont les premiers touchés par ce coup de massue douanier imposé par Washington. Une guerre commerciale qui risque cependant de s'étendre au numérique, car il est bon de rappeler qu'aucune entreprise ou industrie dans le monde ne peut fonctionner sans les composants électroniques, les logiciels, les centres de données et les applications de loisirs ou professionnels que proposent les géants de la tech américaine. Alors que les activités lucratives des GAFAM semblent pour l'instant exclues des ripostes qu'envisage Bruxelles, les ténors de la tech américaine exigent pourtant que les pays de l'UE renoncent à leurs règlements encadrant le numérique. Ces menaces sur l'usage de nos systèmes informatiques représentent un véritable danger tant pour les démocraties locales dans les villes que pour l'ensemble des pays européens, estime Delphine Jamais, déléguée au numérique à Bordeaux Métropole.
Nous, l'enjeu est de mettre en haut de l'agenda européen ces sujets-là. Comment on sensibilise toutes ces personnes à un usage aussi raisonné du numérique? Comment on protège leurs données qui posent souci tant en termes d'accès social aux droits récurrents des personnes, mais aussi finalement en termes de démocratie locale? Très clairement, l'Europe, c'est une digue. Il faut absolument qu'elle ne cède pas à ces pressions américaines.
Le phénomène de l'électronisme chez les Européens s'explique aussi par le manque de compétences numériques des internautes, Dominique.
Oui, et contrairement à une idée reçue, ce phénomène touche plus seulement les seniors. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées et l'utilisation débridée des programmes IA sans vraiment en comprendre à minima les fonctionnements et leur pouvoir d'influence enferment de plus en plus les jeunes internautes dans leur communauté en ligne. Ce manque flagrant de formation aux nouveaux outils informatiques favoriserait aussi la des informations ou les ingérences politiques sur les plateformes sociales, constate la plupart des participants du Forum européen des droits numériques à Bordeaux.
Merci Dominique, à bientôt pour un prochain Monde de Tech.
RFI Midi. RFI à Dakar, 92 FM.
Un autre Mali dans un autre monde, c'est le nom de l'exposition organisée en ce moment au Quai de la Photo à Paris et qui réunit 14 photographes, des grands noms comme des talents émergents, initiés par la Française Françoise Huguier et le Malien Sédou Camara qui a créé à Bamako le collectif Yamaru Photo, un espace d'échange et de formation autour de la photographie. Rencontre entre Muriel Mahalouf et Françoise Huguier. Françoise Huguier, bonjour.
Bonjour.
Un autre Mali dans un autre monde, c'est le titre de l'exposition que vous présentez à Paris sur la photographie malienne. Vous commencez par la première biennale de Bamako. Qui on voit sur cette photo?
On voit beaucoup de photographes de l'époque, surtout des hommes. Et on voit Alpha Conaré, qui était le président de la République à l'époque, et puis moi.
C'était en 1994.
C'est en 1994 la première biennale.
Et là, à l'époque, la photographie au Mali se faisait surtout en studio.
C'était surtout du studio. Mike Sidibé, lui, plutôt faisait du reportage dans des fêtes, dans des familles. Mais les autres, c'était beaucoup du studio.
Et vous étiez en reportage vous-même à Bamako quand vous avez découvert ces photographes.
J'ai commencé à aller au Mali pour Rock and Folk et j'ai photographié deux musiciens, Saïf Keïta et Mori Kanté. Et puis après, je suis revenue. Et puis moi, je faisais beaucoup de photos, surtout en noir et blanc, parce que je trouvais que les photos en couleur, ça faisait un peu tous les cartes postales sur les marchés qu'on voyait. Et à l'intérieur, c'est très sombre. Et à l'extérieur, il y a plein de lumière. Donc je me suis dit, c'est le pays de la lumière. Et en plus, il y a eu le film de Souleymane Cissé, Yélé, qui veut dire la lumière en malien, qui a eu un prix à Cannes. Et moi, je me suis dit, il n'y a rien à Bamako, ce serait bien de faire quelque chose. Voilà. Donc j'ai été un peu dans toutes les pays d'Afrique pour chercher des photographes.
Et dans cette exposition, vous présentez un peu une sorte d'histoire de la photographie malienne, puisqu'on va des premiers, en fait, comme Malik Sidi Bé, jusqu'à des plus jeunes. Alors là, devant nous, justement, il y a des photos réalisées à Tombouctou. Là, on est en plein dans le reportage fait par Amadou Keïta.
Amadou Keïta, qui était quelqu'un de Ségou, qui malheureusement nous a quittés. Et effectivement, il a fait un reportage sur Tombouctou, que j'aimais beaucoup, parce que effectivement, il y a beaucoup de noir et blanc, il y a les rues comme ça, que je connais, les rues de Tombouctou, et ça m'intéressait beaucoup.
Alors, on se rend compte qu'au fil des générations, les femmes apparaissent parmi les photographes au Mali. Il y a par exemple Kani Sissoko. Qu'est-ce qu'elle montre dans cette partie?
Alors, moi, je pense que l'arrivée des femmes, c'est aussi grâce à la Biennale de Bamako. Effectivement, il y a pas mal de femmes maintenant. Et là, Kani, c'est elle la nuit, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Donc, elle s'éclaire elle-même avec tout ce qui se passe la nuit sur elle.
Parmi les photos emblématiques de cette exposition, il y a aussi une photo où on vous voit, vous-même, entouré de photographes et avec un musicien. Alors dites-moi de qui il s'agit.
Il s'agit de Mama Sissoko, qui était le guitariste du Super Biton, que j'ai suivi pendant des années. Et donc Mama Sissoko a une importance pour moi, parce que c'est vraiment, d'abord c'est un virtuose de la guitare. Moi je ne connaissais rien du tout dans la musique mandingue et malienne ou guinéenne, je ne connaissais rien du tout. Mais j'ai appris finalement, avec tous les musiciens, j'ai appris toute l'histoire du Soudan, ça s'appelait Soudan avant, et de l'Empire mandingue. Donc j'ai appris ça avec les musiciens. Enfin, c'était mes professeurs d'histoire, quoi.
Merci François Duguay.
Mais je vous en prie.
Un autre monde, c'est à voir au Quai de la Photo à Paris jusqu'au 1er juin et c'est gratuit. Dans un peu plus de 30 minutes, à midi et demi, temps universel 14h30, à Paris, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Alban.
Et le Mali, toujours à la une de votre journal.
Oui, la justice condamne 9 sympathisants de l'imam Diko, farouche opposant au pouvoir, à 1 an de prison ferme. Elle refuse par ailleurs, la justice malienne, la remise en liberté provisoire de l'ancienne ministre Boiré Fili Sissoko. Ancienne ministre de l'économie d'Ibeka, elle est en prison depuis 3 ans et demi. Sa santé se dégrade, affirment ses avocats. Et puis au Rwanda, la mort du porte-parole adjoint du gouvernement Alain Mukuralinda. Il a succombé hier des suites d'une crise cardiaque. Il avait 55 ans.
Merci beaucoup Nicolas. Tout à l'heure, midi et demi, temps universel sur RFI. Avant le retour, dans moins de 3 minutes de l'information avec le grand journal international de la musique, avec ce midi, Dochi, originaire de Floride. C'est le nouveau phénomène rap. Elle vient de sortir Denial is a River.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Dolce?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's
yeah.
Been a minute, yeah.
I've been getting some calls.
Oh.
People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this
guy cheated on you and nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't
get worse... Dochi sur RFI avec Denial, Is a River. Restez avec nous dans quelques secondes, c'est le retour de l'actualité. $100,000 oops made me loopy.